Classique.
Bonjour, en ces temps où la politique est décriée, où les hommes politiques sont rejetés, nous allons prendre de la hauteur et parler d'un des plus grands hommes d'État de l'histoire. Essayer de définir d'ailleurs ce qu'est un homme d'État. Nous allons en effet passer une heure en compagnie de Winston Churchill à l'occasion de la sortie d'une monumentale biographie de l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, une biographie signée Andrew Roberts, publiée chez Perrin. Elle a été traduite et préfacée par Antoine Capet, un grand spécialiste de Churchill qui est notre invité. Idée, un magazine que vous pouvez aussi retrouver sur notre site www.rfi.fr ou sur votre plateforme de recherche préférée afin de la podcaster. Avant de commencer notre conversation avec Antoine Capet, nous allons écouter Winston Churchill, noblesse oblige en quelque sorte, et je vous propose quatre extraits d'un même discours qu'il a adressé aux Français et en français le 21 octobre 1940 sur les ondes de la BBC.
Français. C'est moi, Churchill, qui vous parle. Pendant plus de 30 ans, dans la paix comme dans la guerre, j'ai marché avec vous et je marche encore avec vous aujourd'hui sur la vieille route. Ici, dans cette ville de Londres, que Herr Hitler prétend réduire en songe et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Je vous dis la vérité. Et il faut que vous me croyiez. Cet homme de malheur, ce monstre avortant de la haine et de la défaite, n'est résolu à rien, moi, qu'à faire entièrement disparaître la nation française, qu'à broyer sa vie même et son avenir. S'il est libre d'agir à sa guise, toute l'Europe ne sera pas plus qu'une bochie uniforme offerte à l'exploitation, au pillage et à la brutalité des gangsters nazis. Si je vous parle aussi carrément, excusez-moi, mais ça n'est pas le moment de mâcher les mots. Allons, bonne nuit. Dormez bien. Rassemblez vos forces pour l'aube, car l'aube viendra. Elle se lèvera, brillante pour les braves, douce pour les fidèles qui auront souffert, glorieuse sur les tombeaux des héros. Vive la France! Et vive aussi le soulèvement des braves gens de tous les pays qui cherchent leur patrimoine perdu. Et marche vers les temps meilleurs.
Winston Churchill, donc, sur les ondes de la BBC le 21 octobre 1940. Bonjour Antoine Capet.
Bonjour.
Je voulais absolument qu'on écoute, qu'on commence cette émission en écoutant Churchill avec ses extraits singulièrement parce que il y a beaucoup de Churchill dans ce qu'on vient de dire. Le courage, la grandiloquence, le désir de dire la vérité et puis le côté familier aussi.
Oui, alors le côté familier, là, bien évidemment, c'est une espèce de mise en scène, il n'y a pas besoin d'insister là-dessus. On lui avait dit surtout d'être paternel, de ne pas partir dans des diatribes anti-hitlériennes comme il était capable de les faire pour les Britanniques. Il est évident qu'on ne s'adressait pas de la même façon au public français qui était, il faut se rappeler, quand il entend ça, le public français, il est en même temps victime de la propagande vichiste qui présente les Britanniques comme voulant enfoncer la France. Donc lui, au contraire, tout son discours, c'est pour montrer aux Français qu'ils n'ont rien à craindre de la Grande-Bretagne, contrairement à ce qu'on leur dit tous les jours.
Alors, vous êtes professeur émérite de civilisation britannique à l'université de Rouen. Vous êtes un spécialiste reconnu de Churchill. Vous avez publié d'ailleurs une nouvelle traduction annotée des mémoires de la Grande Guerre et de son recueil d'essais, Mes grands contemporains. Et vous avez également publié la correspondance entre Winston Churchill et son épouse, Clémentine, ses conversations intimes. Il faudra absolument qu'on parle de Clémentine qui est très importante. Et vous êtes en outre l'auteur chez Perrin d'un dictionnaire Churchill publié en 2018 et rédigé en poche dans la collection Temps. Elle est monumentale, cette biographie, plus de 1200 pages. Elle m'a accompagné durant tout l'été et c'était un véritable plaisir. Alors, il n'est pas question dans cette émission, même si elle est longue, elle ne fait que 50 minutes, de parler de la vie du début à la fin d'un personnage comme Churchill. On va aborder quelques thèmes à l'appui de cette biographie, à l'appui aussi de votre dictionnaire, Antoine Capet. Vous écrivez dans la préface en français, chez le vieux lion, c'était le nom que l'on avait donné à Churchill, tout est démesure. Exploit de jeunesse, extravagance, excès de langage, grandiloquence, corpulence, train de vie de nabab, capacité alcoolique, kilomètres parcourus par tous les moyens de transport possibles et imaginables, et écrits autobiographiques et biographiques. Tout est démesure.
Oui, tout est démesure. Alors, on va pas refaire la liste. On pourrait éplucher la liste, mais vous venez de dire qu'on n'avait que 50 minutes. Mais 50 minutes ne suffiraient pas à éplucher cette liste. Si je prends, par exemple, le dernier membre de phrase où on parle des kilomètres qu'il a parcourus par tous les moyens de transport imaginables, c'est absolument vrai. Il a voyagé à dos de chameau, il a voyagé à dos d'âne, il a voyagé en pirogue, il a voyagé en bateau à voile sur le Soudan. Enfin, c'est impossible de donner une liste exhaustive.
Et voyager beaucoup en avion pendant la guerre, ce qui nous paraît normal de voyager en avion aujourd'hui, mais qui ne l'était pas du tout à l'époque.
Qui ne l'était pas du tout à l'époque, d'autant plus que, évidemment, faut tenir compte de son âge, que les cabines n'étaient la plupart du temps pas pressurisées, tout au moins au début, que la carlingue n'était pas chauffée, les couvertures chauffantes n'existaient pas. Donc, on prévoyait un poêle à pétrole, et une fois, ça sentait très mauvais dans l'avion, et on a eu peur que l'avion prenne feu, etc. On a éteint le poêle, et il a fini le voyage en claquant des dents. Et il avait toujours son médecin avec lui, et le médecin a eu très très peur, en disant, mais enfin, c'est une folie de transporter un homme de cet âge-là dans des conditions pareilles. Et autre chose, ça c'est une petite anecdote.
Ah oui, s'il vous plaît, parce que qui dit Churchill, voilà. Dit anecdote, forcément.
Alors, il n'y avait pas vraiment d'avion de passagers comme il a pu y en avoir après. Enfin, il y en avait un qui s'appelait le Boeing Clipa, mais j'en parle pas. La plupart du temps, il voyageait dans des bombardiers. Des bombardiers, comme je viens de le dire, très mal aménagés. Et le meilleur moyen d'accès pour quelqu'un qui est à pied dans un bombardier, c'est la trappe à bombes. Et il y a une photo absolument extraordinaire où on voit Churchill sur un petit escabeau sortant de la trappe à bombes. Le monsieur, malheureusement, nous sommes à la radio, pas à la télévision, où on voit son gros bidon, et il a le plus grand mal du monde à descendre de la trappe à bombes. Mais ça prouve qu'il était prêt à tous les sacrifices. Lui, qui adorait la vie de grand luxe, le lit moelleux, était très exigeant sur ses oreillers, qui était très exigeant, ne serait-ce que sur ses sous-vêtements, il lui fallait de la soie, enfin, bref, son confort, c'était toute sa vie, mais là, la guerre passait avant.
C'est un personnage complexe d'évidence, oui, alors, qui est contesté aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, parce que une statue de lui, notamment devant le Parlement, a été déboulonnée. Ou en tout cas, il y a eu une tentative de se prendre à cette statue, et Churchill est critiqué par certains en Grande-Bretagne parce qu'il était, selon ses manifestants, raciste et colonialiste. On en reparlera tout à l'heure, et il faut faire attention aux anachronismes d'évidence. On va reprendre quelques thèmes. La thèse centrale de cette passionnante biographie d'Andrew Roberts, c'est que, en fait, Churchill se serait préparé durant toute sa vie politique et personnelle pour devenir, en quelque sorte, le Premier ministre de la Grande-Bretagne le 10 mai 1940.
Oui, alors ça, c'est la thèse que Churchill lui-même a toujours voulu mettre en avant, notamment dans ses mémoires de la Deuxième Guerre mondiale, qui ont eu un succès mondial considérable.
Plusieurs tomes.
6 et des ventes absolument phénoménales dans le monde entier et qui continuent d'être rééditées actuellement, aussi bien en Grande-Bretagne qu'en France, c'est tout à fait disponible. Et donc Churchill a voulu se créer une image, comme tous les hommes politiques veulent se créer une image. Et cette image, bon, on parle souvent de Gaulle, l'homme du destin, c'est Churchill qui aurait donné ce nom-là à De Gaulle. Mais quand Churchill disait de Gaulle l'homme du destin, il pensait également à lui comme homme du destin. Et il a voulu se forger cette image et il a de nombreux arguments, en fait, Churchill, dans ses mémoires, également dans sa petite autobiographie. Je dis petite parce que elle s'arrête à 1900. C'est ses mémoires de jeune homme qu'il a écrit en 1930. Et dans ses mémoires de jeune homme, donc d'enfant, puis d'adolescent, puis d'élève officier, et ça s'arrête là. Dans ses mémoires, il évoque déjà le fait qu'il se préparait à défendre la Grande-Bretagne. Il avait écrit un essai quand il avait 16 ans sur une guerre absolument fantastique, un fantasme, quoi, entre la Grande-Bretagne et la Russie, et où on retrouve, en fait, curieusement, certaines traces de ce qui allait devenir la guerre froide. Et il avait également évoqué des bombardements de Londres, tout ça avant l'année 1900. C'est absolument incroyable. Et auprès de ses camarades, il disait « un jour, moi, je serai Premier ministre ». Alors évidemment, ça peut être une bravade. Peut-être qu'ils sont des centaines à avoir dit ça. Mais lui, il l'est devenu, si vous voulez.
Il est devenu d'évidence. Oui. Alors, vous avez fait référence, Antoine Capet, à son enfance, à sa jeunesse. Il faut préciser à ceux qui ne sauraient pas qu'il est né dans un milieu aristocratique. C'est un aristocrate.
Oui, alors, il est né, c'est... il aurait très bien pu... Une brève période, je commence par ça. Il y a une très très brève période qui a duré 3 à 4 ans à peu près, où son cousin n'avait pas eu d'enfant, Churchill héritait du titre. Parce que, bon, bah, c'est, vous savez, l'ordre de succession. Le père de Churchill était le dernier-né, le puits-né du duc, le grand-père de Churchill. Donc le grand-père de Churchill a eu plusieurs fils, plusieurs filles. Et donc Churchill, lui, malheureusement, il était en queue de liste. Enfin, les filles, c'est encore pire parce qu'elles ne pouvaient même pas hériter du titre. Mais son père a dû gagner sa vie d'une certaine façon.
Quand vous parlez du titre, c'est le titre de...
Le titre de duc de Marlborough, puisque son grand-père était le duc de Marlborough, et le fameux Marlborough s'en va en guerre. Mmh. Et donc, dans l'ordre de succession, comme je viens de le dire, il a brièvement été héritier du titre, mais il s'est jamais fait d'illusions. Et il en a fait presque une gloire, si vous voulez. Je viens de dire qu'il se construisait un personnage. Dans ce livre dont j'ai parlé, qui s'appelle « Mes jeunes années », publié en 1930, il dit que finalement, ça a été une très bonne chose qu'il n'ait pas hérité du titre, parce que ça l'a forcé se dépasser. Il n'a pas eu les choses toutes cuites dans le bec, vous voyez.
Alors, autre thème qui revient souvent quand on parle de Churchill, c'est qu'il aurait eu une vie de revanche sur son père qui l'a peu connu, en fait, qui est mort relativement tôt. Oui. Est-ce qu'il faut croire à cette thèse?
Alors, c'est absolument impossible de savoir ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain. Donc, qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de Churchill? On ne sait pas. Mais c'est évident que toute sa vie, il a fait référence à son père.
Qui le mésestimait, hein, qui le critiquait souvent,
Il y a une lettre absolument extraordinaire, lettre d'un père à son fils, une lettre absolument extraordinaire de Churchill, qui tout content d'annoncer à son père qu'il vient d'être reçu au concours de l'école militaire. Malheureusement, il n'est pas reçu dans les premiers, il était reçu dans les derniers, et son père, au lieu de lui dire « bon, bah, je suis content, t'es reçu, c'est déjà ça », son père lui dit « si tu continues comme ça, tu finiras par être un véritable clochard, l'équivalent. » jamais tu n'as fait quoi que ce soit de toi-même, je ne suis pas du tout satisfait de ta place au concours, tu ne m'as donné que des déconvenues toute ma vie. » Et c'est une lettre d'une cruauté extraordinaire. Qu'il n'en ait pas voulu ensuite à son père, ça paraît incroyable. Mmh. Mais il révérait son père à la fois du point de vue politique, du point de vue intellectuel, et il révérait également sa mère, là, du point de vue, je dirais, affectif.
Jenny, qui était américaine.
Il avait une affection
pour sa mère. Qui était une usurière.
Oui, et il pardonnait tout à sa mère, qui, elle, a vécu beaucoup plus longtemps. Elle est morte au début des années 20, et donc il payait ses dettes, il lui payait ses robes extravagantes, c'était une mondaine comme on n'en fait plus. Et bref, il a un rapport à ses parents qui est quand même très très curieux, cette vénération du père mort jeune, comme vous l'avez dit, et au contraire de cette mère mort vieille et qui a épousé deux fois après la mort de son père, qui a épousé deux jeunes gens qui avaient l'âge de Churchill, elle s'est remariée deux fois avec des garçons qui avaient 25 ou 30 ans de moins qu'elle, et Churchill a tout pardonné.
Magnanime, c'est une
oui,
de ses qualités.
Oui, mais magnanime et un sens de la famille absolument extraordinaire. Vous avez parlé tout à l'heure de Clémentine. Après, il a été non pas, il n'a pas été l'époux modèle dans le sens que il devait être extrêmement coléreux et désagréable parfois, mais époux modèle du point de vue de la fidélité conjugale, par exemple, ce qui est rarissime chez un homme politique de cette époque-là.
Alors, ce qu'il faut préciser, Antoine Capet, c'est que vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est que très tôt Churchill s'est orienté dans la voie des armes. Il est entré dans une école militaire
oui,
de Sandhurst.
Oui.
La plus grande école militaire. D'ailleurs.
Alors, il y avait deux écoles militaires à l'époque, elles sont fusionnées maintenant. Il y avait une école pour l'artillerie qui était à Woolwich, l'est de Londres, et l'autre école qui était Sandhurst, qui formait tout le reste, c'est-à-dire principalement les cavaliers et les fantassins. Et donc son père, toujours son père, vers l'âge de 16 ans, lui dit « Écoute, qu'est-ce que tu veux faire ? Je vois que tu joues beaucoup avec des soldats de plomb. » Il avait une magnifique collection de soldats de plomb. Il reconstituait les batailles entre Napoléon et les Anglais, avec ses 5000 soldats de plomb, en invitant les cousins. Bref, son père lui dit, écoute, tu as l'air d'avoir un intérêt pour les armes. Comme tu es nul pour tout le reste, on peut pas faire de toi un avocat. L'église, n'en parlons pas. Or, c'était les trois seuls métiers qui étaient respectables pour un arrière et un petit-fils de duc. C'était les armes, la magistrature ou l'église. Bon, donc il restait plus que le métier des armes. Ça tombait bien, il semblait avoir de l'intérêt pour. Et donc, mais il a eu beaucoup de mal. Je parlais tout à l'heure du concours. Il n'a eu le concours qu'au bout de la troisième fois et avec ce qu'on appellerait aujourd'hui une boîte à bachot pour le chauffer, pour qu'il passe les examens. Mais une fois admis à l'école, il était dans son élément et il est sorti le meilleur cavalier, sauf un. Sur 190 élèves officiers, il était numéro 2 en équitation.
Alors, avec l'armée, et là nous sommes au tout début du XXe siècle, ou même à l'extrême
fin
du XIXe d'ailleurs.
C'est l'extrême fin du XIXe, oui.
Avec cet enrôlement dans l'armée, ce rôle de combattant, il va voyager, il va beaucoup voyager, il va même donner de sa personne, parce qu'il s'était. Et là on va découvrir un Churchill très courageux, en Inde, dans ce qui est aujourd'hui le Soudan, et en Afrique du Sud également.
Oui, alors c'est intéressant tout ça, parce que tout ça, c'est à inscrire dans la civilisation britannique. C'est-à-dire que la fin du 19e siècle, c'était évident que si vous entriez dans l'armée, vous seriez posté dans l'Empire, comme on disait.
Qui représentait un cinquième du globe en 1900.
Voilà. Et tous les régiments avaient un tour de service qui durait 7 ans dans un des pays colonisés. Et le régiment de Churchill, le 4e régiment de Hussards, son tour est arrivé justement au moment où Churchill quittait l'école et est entré dans le 4e Hussards. Et où son régiment était envoyé à Bangalore, aux Indes, on disait aux Indes à l'époque, parce que c'était pas seulement l'Inde actuelle, c'était aussi le Pakistan. La Birmanie faisait partie des Indes britanniques, Ceylan était en fait de facto intégré dans les Indes, c'est pour ça qu'on disait les Indes. L'armée des Indes, elle couvrait tout ça. Et bref, donc Churchill est envoyé à la frontière nord des Indes, où il y a, alors rien de nouveau sous le soleil, des rebelles afghans, des tribus afghanes, féroces aux yeux des Britanniques, mais qui ne font pas de quartier. On pouvait pas, c'était pas la peine de se rendre pour être prisonnier, parce que ces messieurs ne faisaient pas de quartier, c'était la vie ou la mort. Enfin bref, donc il a été plongé tout de suite dans un bain extraordinairement cruel de l'armée, de la guerre, mais alors c'est là le personnage, on a parlé du personnage complexe, on y revient, il aimait ça. Il aimait ça, c'était un trompe-la-mort, il aimait sentir les balles siffler autour de lui, il écrivait à sa mère, vous ne pouvez pas savoir à quel point c'était presque une extase d'avoir les balles qui sifflaient et de voir qu'on y avait réchappé.
Alors, on n'a pas le temps de s'attarder sur ces passages dans différents... Oui. lieu de l'empire de anglais à l'époque, mais je l'ai dit, l'Inde, les Indes, vous l'avez dit, l'Afrique de l'Est, hein, le Soudan, l'Égypte également, l'Afrique du Sud contre les Boers à l'époque. Et là, effectivement, il est en première ligne. Il est même fait prisonnier en Afrique du Sud.
Oui, oui. Alors là, c'est compliqué. Bon, vous me pardonnerez, moi, j'ai appris à l'école les Boers, donc je continue à dire les Boers. On écrivait même avec un tréma sur le E.
Les Boers contre les Anglais.
Ça se fait plus. Voilà. Enfin, bref. Donc, c'était les descendants néerlandais. Ça veut dire paysan en néerlandais, hein, ce mot de Boer. En allemand. Ces paysans qui étaient en fait des colons, ils étaient venus coloniser les terres, sont entrés dans des conflits. Alors, pas vraiment avec les Britanniques au début, mais avec, en fait, les entrepreneurs britanniques, des gens comme Cecil Rhodes et compagnie, parce qu'ils voulaient exploiter les mines de diamants. C'était pas vraiment les terres qui les intéressaient. Donc, vous voyez, vous aviez deux civilisations différentes. Les descendants néerlandais qui, eux, voulaient cultiver la terre, et vous aviez les capitalistes miniers qui voulaient exploiter les ressources naturelles. Bon, bref, conflit entre ces deux-là. Churchill, à l'époque, en fait, n'a pas été envoyé en tant que militaire, il a été envoyé en tant que journaliste, correspondant de journaux londoniens.
C'est ça qui est intéressant, oui. C'est qu'il a combattu tout en étant journaliste. Ça, voilà. C'était un cas particulier chez Churchill.
Mais il a, toute sa vie, il a mélangé les genres, mais là, c'est le premier grand mélange de genres où il obtient une permission de son régiment, qui est toujours aux Indes, pour aller en Afrique du Sud. Bref, il y a une embuscade. Il est dans un train renversé par un gros rocher qui avait été mis en travers des rails, les Boers attaquent, etc. Il est forcé de se rendre parce que il est tout seul devant plusieurs, il peut pas. Et il dit on a le droit de se rendre quand il n'y a aucune solution, l'honneur est sauf. Bref, ensuite il s'évade dans des conditions acrobatiques, traverse toute la pointe de l'Afrique du Sud dans un wagon caché entre des balles de coton pour arriver finalement au port de Lourenço Marques qui est
le Mozambique actuel.
Voilà, le Mozambique actuel qui était portugais, donc c'était totalement en dehors de la guerre. Et là, il est accueilli en héros en revenant en Grande-Bretagne. Et alors, ça a de l'importance, non seulement pour sa carrière militaire, mais surtout pour sa carrière politique.
C'est ce qu'on comprend en lisant cette biographie d'Antoine Capet, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, il est allé faire la guerre, et il a combattu, et encore une fois en première ligne, avec beaucoup de courage, en ayant à l'esprit une future carrière politique.
Oui, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il avait dit à ses petits camarades au lycée, un jour je serai Premier ministre. Son père avait été chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire le numéro 2, ministre des Finances, numéro 2 dans le gouvernement britannique. Et donc il voulait faire aussi bien que son père, et encore mieux, c'est-à-dire numéro 1, Premier ministre. Donc il avait des accointances absolument extraordinaires, sa mère collectionnait les amants, en plus d'épouser de jeunes hommes, et pas n'importe qui, Édouard VII par exemple, le roi, avait été l'amant de sa mère, et donc elle se servait, si vous voulez, on parle parfois de confidences sur l'oreiller, elle, je ne sais pas si c'était des confidences, mais elle leur soufflait au fait, vous pourriez peut-être faire nommer mon fils à tel endroit, etc. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a pu aller en Afrique du Sud. Donc Churchill évidemment veut entamer une carrière politique, sa mère l'encourage et sa mère fait tout pour le faire intégrer dans les milieux politiques importants. Alors c'est pas facile pour nous aujourd'hui de comprendre ça, mais on n'avait aucune chance de percer en politique, je parle aux alentours de 1900. On n'avait aucune chance de percer en politique en Grande-Bretagne si on ne participait pas au grand bal de la cour, si on n'était pas reçu dans les grands châteaux au week-end, si on ne faisait pas les parties de chasse à Balmoral avec le roi, etc. Donc sa mère l'introduit, et il a un grand nom quand même, rappelons-nous que son grand-père est duc, duc de Marlborough, c'est pas n'importe quoi. Et donc il se fait son trou, si je puis dire, pas lui-même, mais grâce à ses accointances et celles de sa mère.
Et il va commencer, je crois, en 1900, c'est sa première élection, son premier succès. Un nombre, alors j'ai renoncé à compter le nombre de fois où il a été élu au Parlement, de 1900 jusqu'à la fin.
Jusqu'à 1959. Il a une carrière qui va de 1900 à 1959, avec seulement 2 ans d'interruption.
ce qui est assez fascinant, qui est un record dans le genre.
Oui,
et ça, c'est pour ses mandats de député, de parlementaire. Mais si nous parlions de ses nominations de ministre, je crois que la première fois, c'est en 1905, il est secrétaire d'État aux colonies.
Voilà, ça commence très tôt. Là encore, grâce à ses relations, grâce à l'entregent de sa mère, et donc... il est secrétaire d'État adjoint aux colonies, sous-secrétaire d'État aux colonies en 1905. Et là encore, il y a une petite manœuvre. Il faut expliquer, on disait tout à l'heure, c'est compliqué la situation britannique, les institutions britanniques. Quand il est sous-secrétaire d'État, le secrétaire d'État, lui, est un lord. Donc il siège à la Chambre des lords et n'a pas le droit de parler à la Chambre des communes. Donc qui représente le ministère des colonies à la Chambre des communes? C'est Churchill. Et c'est exprès. Churchill, exprès, s'est fait nommer sous-secrétaire aux colonies, alors qu'on lui proposait un poste de secrétaire ailleurs, mais il a dit non, parce que là, je vais avoir le monopole de la parole.
Alors justement, la parole, très importante chez Churchill, il écrit à l'âge de 23 ans, si j'ai bien calculé, un petit livre qui s'intitule « L'art oratoire ».
Oui, oui, oui. Alors, il l'écrit, mais il ne le publie pas. Et c'est très curieux parce que longtemps, on n'en a pas parlé de ce livre. Et on s'est mis à en parler seulement relativement récemment. Et Andrew Roberts, dans le livre, dans les premiers chapitres, fait grand cas de cette espèce de programme que Churchill fait sur l'art oratoire, programme qu'il aurait, selon Andrew Roberts, appliqué tout le reste de ses jours.
Parce qu'il n'a pas une scolarité très brillante, mais c'est quand même quelqu'un de très cultivé.
Alors c'est très curieux, c'est l'autodidacte, mais vraiment dans toute sa splendeur.
C'est vrai qu'il aurait dit, on attribue à Churchill beaucoup de mots, a dit « toute ma vie j'ai appris beaucoup de choses sauf à l'école » en gros.
Oui, il a dit ça, ce qui est faux parce qu'à l'école il était très très bon en histoire. Il était bon en français, curieusement, ce qui ne l'intéressait, il était complètement nul en latin, ça ne l'intéressait pas. Mais dans son livre Mes jeunes années 1930, il en rajoute en se faisant passer pour un cancre. Et ensuite, évidemment, tous les historiens sérieux se sont penchés sur la question, ont été déterrés ses bulletins scolaires, ont été déterrés les rapports sur lui qui étaient faits à l'école militaire. Et en fait, il était très très loin d'être nul. Et alors, en plus de ce qu'il avait appris, parce que si vous voulez, pour le caractériser, moi je dirais, il n'apprenait que ce qui l'intéressait. Bref, ensuite, quand il est posté aux Indes à Bangalore, il n'est pas toujours en première ligne à la frontière afghane, il y a de longues périodes en deuxième ligne où on s'ennuie à mourir, parce qu'il n'y a rien à faire, absolument rien à faire, sauf jouer au polo et lire, ou boire, et à l'époque il ne boit pas.
Et c'est là qu'il a commencé peut-être à...
Oui, mais pas boire excessivement. C'est là qu'il a pris, là encore c'est une anecdote, mais qui est probablement véridique. Il explique que quand il était enfant et adolescent, il avait horreur de voir les gens se saouler et qu'il avait été élevé dans l'idée que il n'y avait rien de pire qu'un ivrogne. Mais que quand il est arrivé aux Indes, il s'est aperçu que l'eau aux Indes était totalement impossible à boire pour un ventre britannique, ça donnait tout de suite les pires coliques, et que donc les officiers mettaient une certaine dose d'alcool, du whisky principalement, dans l'eau, et que c'est comme ça qu'il a pris goût au whisky.
Ensuite, voilà. Il a vraiment pris goût.
Voilà. Oui. Donc, si vous voulez, il y avait boire, jouer au polo, ou alors lire, et il envoie à sa mère, c'est resté, on les a, parce qu'il gardait tout, il envoie à sa mère des listes absolument énormes de livres à lui envoyer par bateau, ça met 6 semaines, mais il assimile tous ces livres-là. Il y a comme un aspect que je trouve, moi, assez désagréable, Andrew Roberts passe un petit peu vite là-dessus, dans les livres qu'il se fait envoyer, il y a des recueils de citations. Il se dit, tiens, ça c'est...
ça peut servir.
Voilà, et je replacerai. Donc on croit qu'il a lu le bouquin Thucydide ou je sais pas quoi. Pas du tout, il a lu une ligne de Thucydide.
Mais en tout cas, lui-même, lui-même dans sa vie, a écrit beaucoup de livres. Il a même, il faut le rappeler, reçu à la fin de sa vie le prix Nobel de, non pas de la paix, mais de littérature.
Oui, alors, deux réflexions là-dessus. Première réflexion, il vivait de sa plume. C'est-à-dire qu'il a gagné infiniment plus d'argent en tant qu'écrivain qu'en tant que politique.
Parce qu'il fallait nourrir alimenter son train de vie, en fait. Et il fallait soutenir son train de vie.
Voilà. Bon, il avait le don de l'écriture, le don de la plume. Il faut savoir que la plus grande partie de ses écrits, c'est du journalisme, notamment du journalisme dans l'entre-deux-guerres. Il écrivait carrément au kilomètre et il était le journaliste le mieux payé à la ligne de tout le milieu journalistique britannique. Bref, Il écrivait parce que il avait besoin d'argent, mais ensuite, il écrivait aussi pour défendre ses idées. Donc il y a eu des livres qui se sont très mal vendus à la fin des années 30, des livres notamment contre l'apaisement. Les gens ne voulaient pas lire ça, donc ils ne l'achetaient pas. Et il a écrit également parce que il avait une sorte de, le plaisir du texte. Il avait le plaisir du texte en tant qu'écrivain. Il aimait se lire. Il aimait voir les beaux mots, les belles phrases qu'il avait faites.
Alors sur le plan politique, sa carrière a été marquée par quelques revirements, petits changements.
Oui, comme vous dites, revirements.
Libéral, ensuite conservateur, reconservateur. Enfin, c'est un itinéraire un peu sinueux.
Alors plus que sinueux, mais avant de parler de cet itinéraire sinueux, je vais le citer. Vous me dites, mais ce n'est pas moi qui ai changé. C'est les idéologies des partis. Moi, je suis resté constant. Ce sont les partis qui ont changé. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? De tradition, la famille était conservatrice. Quand son père était chancelier d'Échiquier, il était chancelier d'Échiquier dans un gouvernement conservateur. Bon, donc naturellement, quand il entre en politique, il entre sur les bancs conservateurs en 1900. Mais la politique des conservateurs ne lui plaît pas du tout, parce que c'est une politique qui est opposée à la réforme sociale, c'est une politique qui est opposée au libre-échange. Or, lui croit vraiment au libre-échange, croit vraiment qu'il faut faire quelque chose pour les classes populaires. C'est un paternaliste. Alors là encore, aujourd'hui, tout le monde se moquerait de lui en disant « Ah, ce gros Richard qui ose se pencher sur les pauvres ». Bah oui, il avait une conscience sociale. Pour lui, le Parti conservateur ne faisait pas ce qu'il aurait dû faire pour améliorer le sort des ouvriers. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte le Parti conservateur pour aller au Parti libéral. Le credo fondamental du Parti libéral, c'est le libre-échange. Donc, il est parfaitement à l'aise là-dessus. Et il y a eu une évolution du Parti libéral à la fin du 19e siècle. Au début du 19e, le Parti libéral était non interventionniste. À la fin du 19e siècle, en Grande-Bretagne, notamment début du 20e, il est devenu interventionniste, c'est-à-dire qu'il est pour la création d'un système de sécurité sociale, très peu généreux, évidemment. La création d'un système de pension de retraite pour les vieux travailleurs, ce qu'on appelait en France la retraite des vieux travailleurs, c'est qui est d'ailleurs hérité des Allemands, de Bismarck. Et donc Churchill embrasse les idées du Parti libéral, qui sont ses idées naturelles, vous voyez. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors là, on est en train de parler de 1905, c'est justement là qu'il devient ministre, en même temps qu'il a quitté le parti plus ou moins en 1904. Enfin bref, dans les années 20... De nouveau, il va tourner sa veste officiellement, c'est-à-dire il va retourner au Parti conservateur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que c'est le Parti libéral, là, non pas qui a changé d'idée, mais le Parti libéral qui est en train de s'écrouler, doublé par le Parti travailliste. Et il n'est pas question que Churchill adhère au Parti travailliste.
Alors ça, c'est un itinéraire sinueux. Il faut lire avec dans les détails à la fois votre dictionnaire, Antoine Capet, et ce livre, cette biographie magnifique, pour comprendre dans ses détails cet itinéraire. Parce que ce livre est aussi un livre sur la politique en Grande-Bretagne, sur les ressorts de la politique. Si nous parlions, Antoine Capet, du stratège Churchill, parce que c'est aussi au cœur de ce livre. Il a été marqué, Churchill, par la Première Guerre mondiale, qu'il a connue comme ministre de l'Amirauté, premier lord de l'Amirauté.
Alors, il a eu deux rôles. Au début de la première guerre, il est premier lord de l'Amirauté, c'est-à-dire en France, ministre de la Marine. Il préside au désastre des Dardanelles en 1915. Il tombe en disgrâce, il part au front, sur le front franco-belge, du côté d'Armentières, et il revient en 1916, et il est fait ministre de l'armement en 1917 par Lloyd George, le Premier ministre.
Il a été marqué par cette affaire des Dardanelles, c'est Gallipoli.
Absolument, marqué à vie.
On lui a reproché, fait, une opération qui a échoué, qui a fait 200 000 morts, à peu près.
Oui, mais alors, ce qu'on lui a reproché, c'est pas que l'opération ait échoué, ça a été l'entêtement, c'est-à-dire un peu... Churchill était un joueur. Il a beaucoup perdu d'argent au casino à Deauville et à Cannes et à Monte-Carlo, notamment à Monte-Carlo à la fin de sa vie. Et Churchill était un joueur. Et vous savez, il y a des joueurs qui remettent en disant...
Oui, parce qu'il ne faut pas perdre.
Je suis sûr que la chance va venir de mon côté. Et ça a été son erreur en 1915. L'idée n'était pas du tout mauvaise, l'idée d'une attaque des Dardanelles, mais il aurait... évidemment fallu abandonner l'idée lorsqu'on a été incapable de percer les défenses turques. Et au lieu d'abandonner la partie, il en a remis, si vous voulez, d'où les 200 000 morts, comme vous dites.
Mais il y a eu une enquête qui a été faite après, et sa responsabilité était quand même atténuée. Hein.
Oui, parce que bien évidemment, il n'était pas le seul à décider. Ouais. Il n'était pas le seul à décider, mais il était clair dans l'esprit de tout le monde que c'était lui qui a insisté le plus.
Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que vous l'avez dit, Antoine Capet, qu'il est allé combattre après. Hein.
Voilà.
Il est rare qu'un ministre quitte le pouvoir et aille combattre, même en temps de guerre. Je n'ai pas d'autres exemples à citer.
Il n'y en a pas dans l'histoire britannique, en tout cas.
Il n'y en a pas dans l'histoire britannique. Non. Et alors ensuite, il y a le Churchill, parce que le temps presse et là ça va trop vite, on va revenir à ce Churchill de la Seconde Guerre mondiale qui dans les années 30 connaît une traversée du désert, mais qui est connu, et l'histoire le retient ainsi, comme étant l'homme qui a alerté en fait sur la montée du nazisme à partir de 1933 et sur la politique de la lâcheté hein, de certains au sein du milieu politique anglais.
Oui, alors justement, cette traversée du désert, c'est tout simplement parce qu'il était impopulaire. Impopulaire pour deux raisons. Premièrement, passait pour le va-t-en-guerre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a toujours aimé entendre les balles siffler. Il ne s'en cachait pas. Mais en 1933, en fait, quand Hitler arrive au pouvoir, dès 1932, il avait alerté en disant « Attention, s'il devient chancelier, ça va être l'horreur. » Et l'autre raison qui le rend impopulaire, c'est son attitude vis-à-vis de l'indépendance des Indes. Alors, c'est pareil, raconter ça en 30 secondes...
Oui, ça va... On reparlera tout à l'heure des critiques qui lui sont adressées, Churchill raciste et colonialiste. Il faut simplement dire qu'il a alerté, en fait, ses compatriotes, le milieu politique, et c'était difficile, parce qu'il y a Chamberlain, il y a la politique de l'apaisement, lui était contre ça, et il devient, par des manœuvres très précises que la biographie raconte très très bien, Andrew Roberts.
Oui, excuse-moi, je vous coupe, je dirais pas très bien. C'est la meilleure, la meilleure description, parce qu'il épluche toutes les hypothèses. J'ai jamais vu une description aussi bonne des raisons qui l'ont amené au pouvoir.
Et on est dans les arcanes du pouvoir et du Parlement britannique.
Magnifique,
c'est absolument
magnifique,
fascinant.
Son traitement des archives est magnifique.
Il devient le Premier ministre de la Grande-Bretagne le 10 mai 1940, dans l'urgence, hein, dans l'urgence.
Bien sûr, oui. Eh ben il alors coïncidence, c'est là la main du destin bien évidemment, coïncidence, il devient Premier ministre le jour où Hitler envahit la Belgique et les Pays-Bas. Et beaucoup de gens d'ailleurs croient qu'il est devenu Premier ministre pour ça. Pas du tout, à quelques heures près, il avait été nommé ministre la veille au soir. Donc il n'y a pas de cause à effet, si vous voulez. Mais la coïncidence est tellement extraordinaire.
Donc sa première préoccupation, on ne peut pas entrer dans le détail, là aussi il faut lire vos livres, Antoine Capet, il faut lire cette biographie. Sa première préoccupation, c'est Dunkerque, l'évacuation des soldats anglais, enfin c'est cette poche du nord de la France. Et il y a aussi le Churchill qui s'adresse à ses compatriotes un certain 18 juin, Parce qu'il y a aussi un appel du 18 juin de Churchill à ses compatriotes, et on en écoute un extrait.
What General Weygand has called the Battle of France is over.
Ce que le général Weygand a appelé la bataille de France est terminé. Je crois que la bataille d'Angleterre est sur le point de débuter. De cette bataille dépend la survie de la civilisation chrétienne. D'elle dépend aussi notre mode de vie, à nous, britanniques, et la longue continuité de nos institutions et de notre empire. Toute la furie et toute la puissance de l'ennemi vont bientôt se retourner contre nous. Hitler sait qu'il lui faudra nous briser dans notre île ou bien perdre la guerre. Si nous parvenons à lui résister, toute l'Europe pourra être libre et l'existence du monde pourra progresser vers la lumière des hautes cimes. Mais si nous échouons, alors le monde entier, y compris les États-Unis, y compris tout ce que nous avons connu et chéri, sombrera dans l'abîme d'une nouvelle ère, obscurantiste, rendue encore plus sinistre et peut-être plus durable par les éclairages d'une science pervertie.
Let us therefore brace ourselves to our duty.
Préparons-nous donc à faire notre devoir avec résolution.
So bear ourselves that if the British Empire
et à nous comporter de telle sorte que si le Commonwealth et l'Empire britannique durent 1000 ans,
men will still say,
les gens diront toujours
this was their finest hour.
Ce fut là leur plus belle heure.
Alors ça, c'est le Churchill que l'on a gardé. C'est le Churchill qui fait face, qui alerte ses compatriotes et qui essaie de sauver la face. Dans ses mémoires, il écrit quelque part « Je me montrais sous le jour souriant, avec l'air d'être confiant, qui sied quand tout va très mal ».
Oui, bah oui, oui, oui. Mais c'est justement là, si vous voulez, cette espèce de double jeu que, au contraire de lui reprocher après la guerre, on a apprécié en disant « Bah oui, vous avez bien fait ». La population lui a été absolument reconnaissante.
Et là aussi, il y a moult détails dans cette biographie où l'on voit Churchill qui va sur sa terrasse, sur la terrasse du 10 Downing Street, pour voir les bombardements, pour essayer de constater les dégâts.
Oui,
pour essayer
pas déjà le 18 juin, parce que les bombardements commencent au mois de septembre, mais à partir du mois de septembre.
Oui. Parce que Londres est sévèrement touchée.
Bien sûr, oui.
Et il y a même un épisode où il prévient, il va sauver sa cuisinière et le personnel de la cuisine.
Absolument,
parce qu'il pressent
qu'il va y avoir
un bombardement.
Oui.
Ça, c'est le Churchill qui est resté dans l'histoire.
Oui.
C'est celui qui fait face, alors que l'Angleterre est menacée, même il craint l'invasion.
Oui, je dirais, c'est le Churchill, justement, des anciennes générations, pas si anciennes que ça, c'est ma génération, c'est-à-dire des gens qui continuent à voir en lui, justement, tous ces points extrêmement positifs.
Alors, il faut préciser que, tout comme il a alerté ses compatriotes sur la montée du nazisme, il a ensuite alerté sur le communisme, sur Staline, porte qu'il avait dû, avec lequel il avait dû composer pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a le discours de Fulton, université du Missouri, le rideau de fer. Il y a le discours au Conseil de l'Europe à Strasbourg en 1949. Donc il avait là aussi senti la montée du communisme.
Alors Churchill,
le totalitarisme soviétique.
Oui, Churchill est ce que Georges Marchais aurait appelé un anticommuniste primaire. Churchill a voulu en 1919 absolument écraser l'armée rouge, mais le gouvernement britannique lui a dit mais vous êtes complètement fou, qu'est-ce que c'est que ça. Il voulait envoyer troupe sur troupe pour aider ce qu'on appelait à l'époque les Russes blancs. Et Churchill toute sa vie a été un anti-bolchevique, puis ensuite un anti-communiste foncier. Et Churchill a fait taire, si vous voulez, son anticommunisme à partir de 1938. En voyant que jamais, ni la Grande-Bretagne, ni la France n'auraient la force de contenir cette armée allemande qu'on a eu la stupidité de laisser se reconstituer. Donc après Munich, octobre, novembre 1938, Churchill dit « il faut l'alliance avec les soviétiques ». Alors ce qui est, vous imaginez, auprès des conservateurs de la droite britannique et de la droite française, la dernière des folies. Et pourtant, il avait vu juste, mais pour lui, de deux mots, il faut choisir le moindre. Le péril numéro un, c'était le péril hitlérien, le péril stalinien, on verrait après. Et Staline ne s'y est jamais trompé.
Alors il nous faut évoquer la statue dégradée de Churchill en juin près du Parlement à Londres. Churchill, jugé par certains racistes et représentants d'une Grande-Bretagne colonialiste.
Oui.
Parce qu'il était farouchement opposé à l'indépendance des Indes, même à une certaine autonomie. On lui a reproché aussi de ne pas s'être activé, de n'avoir rien fait ou presque lors d'une famine au Bengale en pleine guerre, enfin dans les années 40. Que répondre ?
Alors, que répondre ? Pour la famine au Bengale, c'est quelque chose qui est sorti seulement récemment, ça. Ce sont des historiens indiens immigrés aux États-Unis qui ont sorti ces questions-là. C'est tout à fait vrai. Tous les documents sont là. Et il y a de multiples échanges de correspondances entre Churchill et ses ministres, que ce soit les ministres chargés des armées, les ministres chargés des transports. Bref, de deux mots, il faut choisir le moindre, là encore. Il faut trouver des priorités. Et on avait les céréales, on n'avait pas les bateaux. Si on mettait les bateaux dans le golfe du Bengale, les bateaux qui étaient dans le golfe du Bengale, ils n'étaient pas là pour traverser la Manche. Or là, nous sommes en train de parler de la fin de 1943, où on avait les plus gros préparatifs pour le débarquement. À l'époque, on pensait que ça serait mai 44. Bref, Churchill a choisi la Manche plutôt que le golfe du Bengale. Peut-être que c'est grâce à ça que nous ne sommes pas hitlériens aujourd'hui.
Alors, on lui a reproché aussi d'être hostile à l'indépendance parce qu'il considérait que les Indiens, en fait, ne pouvaient pas être dirigés par des Indiens.
Alors, il y a une anecdote absolument magnifique. Ça se passe en 1943. Churchill est à New York parce qu'il était allé voir le président des États-Unis Et il fait un crochet, si je puis dire, par New York. Il est reçu dans les locaux du New York Herald Tribune, qui est un journal de la gauche américaine. Et la veuve du propriétaire, au cours d'un dîner entre gens très très bien de l'élite américaine, lui dit « Monsieur Churchill, que comptez-vous faire pour ces pauvres Indiens ?» Churchill monte sur ses grands chevaux et lui dit « Mais de quels Indiens parlez-vous, madame ?» Parlez-vous des Indiens à peau rouge d'Amérique qui sont en voie de disparition, qui sont en train de mourir de maladie et de faim? Ou parlez-vous des Indiens de l'Empire britannique qui, eux, sont en pleine expansion, une expansion démographique sans précédent, avec une médecine qu'ils ne connaissaient pas? Alors évidemment, la pauvre dame, elle s'est tue. Voilà, donc on peut pas mieux répondre que Churchill lui-même répondant à cette dame sur les Indiens d'Amérique.
Antoine Capel, si nous terminions cette émission en parlant de Clémentine... Quelle femme, quel couple ?
Eh oui, comme vous dites, quelle femme, quel couple. Personne ne comprendra jamais. Personne ne comprendra jamais comment elle a pu le supporter. Parce que, je ne sais pas, je ne suis pas une femme, mais je ne m'imagine pas supporter les frasques de Churchill, ses sautes d'humeur, ses décisions absolument subites. Un seul exemple, 24 décembre 1944. Tous les préparatifs sont faits pour le réveillon du soir et Churchill dit « J'annule le réveillon, je pars en Grèce pour mater la rébellion des communistes. » Et hop, tout s'écroule. Leur fille dit « C'est la seule fois que j'ai vu ma mère pleurer devant la famille. »
Oui, c'est un couple qui était pourtant très soudé. Vous avez publié donc leur correspondance qu'il faut absolument lire aussi. Ils s'écrivaient beaucoup et Clémentine, comme on dit familièrement aujourd'hui, le recadrait.
Ah bah oui, absolument. Il ne lui demandait pas de conseils, mais elle lui donnait quand même. Bon, et ils avaient une sorte de répartition des rôles, c'est-à-dire qu'elle savait là où il ne fallait pas qu'il aille trop loin. Et plusieurs fois, il y a des lettres de réprimande où elle lui dit, moi je l'ai fait, vous voyez, dans ce milieu-là, vous devriez vous méfier, j'ai entendu des murmures auprès de certains de vos collaborateurs, vous les traitez comme des chiens et ça ne peut plus durer. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et également, des fois où j'ai une lettre qui me vient à l'esprit, où il ne voulait pas se rendre à l'enterrement d'un diplomate, peu importe. Et elle lui dit, mais enfin, vous vous rendez compte de l'injure que ça serait pour sa veuve si vous n'allez pas à l'enterrement? Il n'y aurait pas pensé. Alors évidemment, il y est allé.
Elle lui donnait des conseils, elle a pas joué de rôle politique, on peut pas dire qu'elle ait joué un rôle politique.
Elle a joué un rôle politique, si vous voulez, dans le sens que elle lui a donné le bon conseil au bon moment.
Ouais.
Le seul bon conseil qu'il n'a pas écouté, et il aurait dû l'écouter à mon sens, c'est en 1945, quand il a perdu les élections, elle voulait qu'il quitte la politique pour de bon. Et là, il ne l'a pas écouté au grand désespoir de sa femme.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'il a été battu en 45, l'ingratitude des peuples, dit-on. Oui. Et il a été à nouveau Premier ministre en 51.
Oui.
Mais c'est pas la période. Oui, c'est pas la période la plus glorieuse.
Non, non, non.
Et il est mort en 1965.
Oui.
Merci Antoine Capet, vous avez préfacé et traduit cette monumentale, je le répète, biographie d'Andrew Roberts, publiée chez Perrin. Vous êtes vous-même auteur notamment d'un dictionnaire Churchill, publié en 2018 chez le même éditeur et réédité en poche dans la collection Tempus. Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovensky, un magazine que vous pouvez retrouver podcasté sur le site de la radio, www.rfi.fr ou sur votre plateforme de recherche préférée pour l'écouter quand vous le souhaitez. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.